Radio Prague, les informations.
Bonjour. Selon le Premier ministre, les candidats intéressés par des subventions européennes doivent commencer à préparer leur dossier. Plus de 100 kilos de cocaïne trouvés dans un colis de bananes destiné à un supermarché pragois. Et un manuscrit rare volé au musée juif de Prague a été retrouvé en Israël. Après s'être réuni avec ses ministres ce vendredi, le Premier ministre Bohuslav Sobotka a appelé les candidats intéressés par des subventions européennes à préparer leurs projets pour les soumettre à l'Union européenne le plus tôt possible. Les régions, les villes ou des organisations à but non lucratif peuvent déposer leurs dossiers entre le mois d'avril et le mois de mai, période où la République tchèque devrait obtenir l'approbation de la Commission européenne concernant 4 programmes opérationnels. Pour la période 2014 et 2020, la République tchèque peut recevoir de l'Union européenne jusqu'à 652 milliards de couronnes, soit près de 23 milliards d'euros. Plus de 100 kilos de cocaïne ont été trouvés dans un colis de bananes destiné à un supermarché pragois et envoyé de Colombie, a annoncé ce vendredi la centrale de lutte contre la drogue. Il s'agit de la plus importante quantité de cocaïne jamais saisie par les douaniers ou les policiers en République tchèque. La drogue a été trouvée par hasard. La police n'a pas donné plus d'informations sur l'affaire pour l'instant et n'a pas précisé si c'est un employé qui a fait la découverte. Selon l'agence de presse CTK, la marchandise avait été placée dans des cartons de bananes qui devait être vendu dans un magasin Lidl situé dans le quartier de Zbraslav. La valeur théorique de la prise est estimée à plus d'un milliard de couronnes au détail, soit 37 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du commerce de détail en République tchèque a augmenté en février de 6,3% par rapport à la même période en 2014. Il s'agit de la croissance la plus rapide enregistrée depuis octobre 2008 et le début de la crise économique, selon les données communiquées ce vendredi par l'Office national des statistiques. Les Tchèques ont effectué plus de dépenses, notamment de carburant, dont les prix commencent à remonter après leur chute des mois précédents. Le volume de leurs ventes a progressé de 10%, le tout pour un prix moyen inférieur de 8% à celui de l'année précédente. Les ventes sur Internet affichent elles aussi un chiffre en hausse d'environ 25%, notamment grâce aux ordinateurs et téléphones. Selon les analystes, cette croissance d'ensemble du commerce de détail a dépassé les attentes des marchés financiers. La police israélienne a saisi un manuscrit hébreu qui avait disparu du musée juif de Prague il y a 8 ans de cela. Le document avait refait surface au mois de janvier dernier lors d'une vente aux enchères en Israël. Le document qui avait été écrit dans la ville de Keof entre 1654 et 1854 rassemble des informations sur les juifs tchèques et représente une source historique importante quant à l'étude démographique de la communauté juive dans la région de Keof. Le musée juif de Prague a fait savoir que la valeur du manuscrit était inestimable. Les enquêteurs ont toutefois évalué son prix à plus d'un demi-million de couronnes, soit 18 000 euros. Selon le quotidien Jerusalem Post, le document a été saisi par une unité spéciale de la police israélienne dans la ville de Petah Tikva, où plusieurs personnes ont notamment été arrêtées. Le manuscrit devrait retourner au musée juif de Prague au plus tôt. L'historien tchèque et théoricien de l'art et de l'architecture, Rostislav Švácha, a été récompensé du prix Sport et Art, octroyé par le Comité international olympique. Le prix lui a été remis ce vendredi par Jiří Kejval, président du Comité olympique tchèque. Âgé de 62 ans, Rostislav Švácha est l'auteur du livre Napej, premier tome d'une œuvre qui s'intéresse à l'évolution de l'architecture sportive entre 1567 et 2012. Le Comité international olympique octroie le prix Sport et Art depuis 1985 sur proposition des comités olympiques nationaux. Diplômé de l'université Palatsky d'Olomouc, Rostislav Švácha travaille comme chercheur à l'Institut d'histoire de l'art de l'Académie des sciences. En 2013, il a notamment été récompensé par le ministère de la Culture pour sa contribution dans le domaine de l'architecture. Et nous terminons par un mot de météo. C'est un temps toujours très froid qui règne sur l'ensemble de la République tchèque ce week-end. Samedi, jour des Evana, la journée s'annonce pluvieuse, tandis que dimanche, jour de fête des Miroslava et des Melka, on prévoit un temps partiellement ensoleillé. Les températures aussi entre 4 à 8 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous présentez Danessa Tomanova. Restez en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Anna Kubeshta pour la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Au programme aujourd'hui, l'ouverture officielle la semaine prochaine des 4 nouvelles stations de métro de la ligne A à Prague. Mais aussi une question qui revient régulièrement sur le tapis au Parlement tchèque et qui est de circonstance. Le vendredi saint redeviendra-t-il un jour férié en République tchèque? C'est en tout cas l'objectif affiché des chrétiens démocrates. En deuxième partie d'émission, le miroir de la société s'intéressera notamment au fameux convoi de l'OTAN qui a traversé récemment la République tchèque. Bonne écoute à toutes et à tous. Le réseau du métro de Prague, qui a fêté ses 40 ans il y a moins d'un an, s'agrandit en attendant l'éventuelle construction d'une quatrième ligne envisagée pour le début des années 2020. 4 nouvelles stations seront ouvertes ce lundi, prolongeant ainsi la ligne A, dont le terminus se terminait jusqu'alors dans le quartier de Davidsee, jusqu'au plus grand hôpital du pays à Motol. Ce prolongement sur un peu plus de 6 km permettra également de réduire le temps de voyage nécessaire entre l'aéroport international Václav Havel et le centre de Prague. Guillaume Larguet nous a rejoint en studio pour nous en dire un peu plus, notamment sur une petite curiosité dans ce nouveau métro.
Oui, ma chère Anna, on ne sait s'il s'agit d'une spécificité tchèque, mais la question mérite en tous les cas d'être posée. Pas même ces 4 nouvelles stations situées dans le 6e arrondissement de la capitale, Bogislavka, Nadraji Veleslavin, Petrchini et Nemotsnice Motol, n'ont encore été inaugurées que déjà une première controverse s'est apparue mercredi dernier. Des petits malins se sont aperçus que dans l'une de ces stations flambant neuves, à Nadraji Veleslavin plus précisément, c'est-à-dire la gare de Veleslavin, aucun escalier mécanique n'a été installé à la sortie menant à l'arrêt de bus depuis lequel les voyageurs en provenance du centre-ville seront censés rejoindre l'aéroport. Et certains médias tchèques, vous vous en doutez, ravis d'avoir un si bel os à ronger, l'ont bien souligné, malgré la date de la sortie de l'information mercredi dernier, donc ce n'était nullement un poisson d'avril. Sans doute prise de court et gênée aux entournures, la Société des transports en commun de Prague a précisé qu'il ne s'agissait pas non plus d'un oubli et s'est défendue en prétendant qu'au moment de la planification du projet en 2008, donc, l'aéroport de Prague n'avait pas demandé d'escalator. Une argumentation qui n'enlève rien au fait que pour un projet dont le coût est estimé à 20 milliards de couronnes, soit 730 millions d'euros, cela fait quelque peu désordre. Les institutions européennes, qui devraient participer à hauteur de 7 milliards de couronnes au financement des travaux, seront certainement ravis d'apprendre la nouvelle.
En effet, néanmoins Guillaume, certaines mesures seront prises pour aider les voyageurs moins costauds ou aux sacs et valises trop lourds à sortir du métro.
Oui, l'aéroport de Prague a annoncé qu'un service de porteur de bagages serait mis en place. 1 à 2 Sherpas des temps modernes, selon l'affluence, seront à disposition des gens pour les aider à monter l'escalier avec leurs bagages, le tout gratuitement de 5h à 22h tous les jours de la semaine.
Et puis je crois savoir que ce n'est pas le seul reproche fait au prolongement du métro de Prague.
Non, ces critiques regrettent le choix de l'hôpital de Motol comme terminus, alors que l'aéroport de Prague, qui est distant seulement de quelques kilomètres des nouvelles stations construites, reste toujours desservi uniquement par des autobus et qu'il n'existe aucun autre moyen de transport direct le reliant au centre de Prague. Par ailleurs, ces 4 nouvelles stations ne seront exploitées que partiellement. Ainsi, à titre d'exemple, entre 9h30 et 20h, seule une rame de métro sur 2 effectuera la liaison entre Davidska, où finissait jusqu'à présent la ligne A, une ligne aussi appelée ligne verte, et l'hôpital de Motol. Enfin, d'autres problèmes d'ordre financier, cette fois vous vous en doutez Anna, ont accompagné la réalisation des travaux pour diverses raisons. De la répartition opaque des moyens de financement à certains engagements non respectés par rapport au projet initial, la ville de Prague pourrait ainsi ne pas recevoir la totalité des 7 milliards de couronnes, soit 255 millions d'euros en provenance des fonds structurels européens, comme cela était initialement prévu.
Pour autant, le développement du métro pragois pourrait se poursuivre dans un avenir plus ou moins proche.
Oui, alors la construction envisagée d'une quatrième ligne de métro à Prague, dite la ligne D, depuis Náměstí Míru, la place de la paix dans le centre-ville, jusqu'au quartier de Písnice, c'est cette fois dans le sud de Prague, coûterait quelque 45 milliards de couronnes, soit 1 milliard 650 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé mercredi dernier, le directeur général de la société Metro Project. Les travaux pourraient être entamés en 2017 et durer 5 à 6 ans. Cette nouvelle ligne de métro, qui est une des promesses de la coalition gouvernementale, doit permettre de relier le sud de Prague avec le centre. Une fois l'achat des terrains achevé, le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation du projet est prévu pour l'année prochaine.
La République tchèque, qui est souvent présentée comme le pays le plus athée d'Europe, va-t-elle faire du Vendredi Saint un jour férié? Si la réponse à cette question est encore loin d'être affirmative, c'est néanmoins ce à quoi aspire le Parti chrétien-démocrate, une des trois formations de la coalition gouvernementale. Si leurs partenaires sociaux-démocrates ne se sont pas opposés à l'idée, comme l'a confirmé le Premier ministre Bohuslav Sobotka jeudi, rejoint en ce sens par d'autres partis également, le Parti communiste, lui, est plus réservé sur le sujet. En tout cas, c'est une question qui revient sur le tapis à intervalles plus ou moins réguliers à la Chambre basse tchèque depuis quelques années déjà. La période précédant les fêtes de Pâques étant une occasion idéale, les députés chrétiens-démocrates du KDU-CSL sont donc revenus à la charge. Leur chef Jiří Mihola explique pourquoi.
Nous n'avons de cesse de demander que le Vendredi Saint soit un jour férié. Et c'est le cas dans de nombreux pays d'Europe, notamment dans les pays ayant une tradition protestante, où ce jour est important et même le plus important.
En effet, en Slovaquie, en Allemagne, en Autriche voisine, mais aussi dans les pays scandinaves, le Vendredi Saint est un jour chômé. Commémorant la Passion du Christ, c'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier liturgique chrétien. Paradoxalement, dans un pays comme l'Italie, qu'on peut difficilement taxer d'athéisme farouche comme la République tchèque, le Vendredi Saint est un jour ouvrable. En France, pays laïque s'il en est, seuls l'Alsace et la Moselle ne travaillent pas, une tradition reliquat du droit allemand dans ces régions frontalières. En République tchèque, ce jour férié a été supprimé au début des années 1950 par le régime communiste en place. Aujourd'hui, le Parti communiste de Bohême et de Moravie argue que la signification religieuse du Vendredi Saint n'aurait guère d'impact sur la population. Un argument qui pourrait prévaloir également pour le lundi, jour férié, lui, qui referme un week-end pascal devenu une fête païenne bien plus que religieuse pour un grand nombre de Tchèques. Pour les opposants les plus fervents à l'institution d'un Vendredi Saint dédié au repos, les raisons économiques prévalent. Une journée chômée supplémentaire serait contre-productive en temps de crise. En attendant, paradoxe de la situation, les écoliers tchèques, eux, à l'exception de ceux des classes maternelles, ont leur jeudi et vendredi de libre. Un casse-tête pour les parents qui doivent travailler comme n'importe quel autre jour de la semaine avant de profiter d'un week-end prolongé. Pour Jiří Mihola, l'aspect religieux des fêtes pascales ne doit pas occulter un aspect plus culturel.
Les fêtes de Pâques sont les plus importantes de l'année. On ne peut les ignorer. Il ne faut pas les considérer uniquement comme des fêtes religieuses, mais comme faisant partie intégrante de la culture et des traditions tchèques. En outre, elles vont de pair avec des journées de vacances pour les écoliers. Pour certains, ce sont des fêtes religieuses. Pour d'autres, c'est plutôt un agréable jour de congé en plus qui permet de se retrouver en famille.
Avec 13 jours fériés dans son calendrier, la République tchèque se situe plutôt dans la moyenne européenne à titre de comparaison. L'Allemagne voisine en compte 17 et l'Espagne une vingtaine, tandis que les Français s'en contentent de 11. Ce n'est pas la première fois que les députés tchèques souhaitent réinstaurer le Vendredi Saint comme jour férié, alors qu'une partie d'entre eux souhaite débattre de la question. Les chrétiens démocrates finalisent leur proposition de loi, tout en espérant voir un signe positif dans la décision de leurs collègues de ne pas se réunir en ce vendredi à la chambre basse du Parlement. Comme quoi, s'il ne l'est pas pour la plupart, le Vendredi Saint est en somme déjà un jour férié pour certains tchèques. Après ces faits et événements, on passe à notre revue de presse. Outre la libération et le retour au pays après 2 ans de détention de 2 jeunes femmes tchèques enlevées au Pakistan en 2013, c'est la traversée de la République tchèque par un convoi militaire américain qui a soulevé un certain nombre de réactions et d'émotions dans l'opinion publique tchèque. Ce passage des soldats et des équipements américains en début de semaine a été largement traité également dans les médias. Parmi les autres thèmes abordés ces derniers temps dans la presse, nous avons retenu un texte qui se penche sur les perspectives qu'offrent les très bonnes relations actuelles entre l'Allemagne et la Tchéquie. des relations dans lesquelles le rôle d'Angela Merkel est incontournable, ainsi qu'une information sur un projet d'innovation qui entend faire de Prague une ville moderne du futur. Enfin, nous consacrerons quelques mots à l'exposition d'Oskar Kokoschka qui se tient à Prague et sur les attaches qui liaient le grand peintre autrichien à la capitale tchèque. Cette rubrique vous est proposée par Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Samedi dernier, soit la veille de l'arrivée du convoi américain militaire sur le territoire tchèque, le supplément Česká pozice du quotidien Lidové noviny a publié un entretien avec l'historien Jiří Šedivý, selon lequel cette traversée du pays par des forces armées étrangères permet de distinguer ceux qui sont les amis de la Tchéquie et ceux qui ne le sont pas. À l'adresse des opposants à ce convoi, Jiří Šedivý dit notamment:
ceux qui déplorent l'arrivée du convoi américain en Tchéquie refusent le fondement essentiel de notre État. Ils souhaitent un changement radical de son arrangement intérieur, tout comme une autre position internationale et géopolitique de la République. Il s'agit là d'une position extrême qu'il convient de rejeter. Il n'en va pas tellement du convoi en tant que tel, mais de notre position entre l'Est et l'Ouest, autrement dit du contexte de cet événement par rapport à notre position vis-à-vis de la Russie.
Comme l'a noté Martin Koller, expert militaire et publiciste, dans un commentaire mis en ligne sur le site novinky.cz, on a du mal à comprendre que cet événement puisse diviser la société tchèque d'une manière aussi aiguë. Une division pas très équilibrée quand même, car une grande majorité des Tchèques affirment ne pas avoir été dérangés par le passage du convoi américain. Mieux même, ils l'ont accueilli avec enthousiasme. Sur ce point, Martin Fendrich, l'éditorialiste du site aktuálně.cz, a remarqué:
on aime dire et écrire que la traversée du convoi a divisé la société tchèque, mais ce n'est pas vrai. Ce qui la divise depuis déjà le Maïdan, c'est la propagande russe intensive, une campagne professionnelle de désinformation.
Dans le quotidien économique Hospodářské noviny, Adam Černý a appelé tous ceux qui ont prétendu que la traversée américaine de la République tchèque était une démonstration de force à comparer celle-ci avec les incommensurables démonstrations de force entreprises par la Russie. Pour sa part, le sociologue Josef Schlerka, auquel la parole a été donnée dans l'hebdomadaire Respect, souligne le côté symbolique de ce transfert, son rejet par une minorité de la population traduisant avant tout certaines frustrations liées aux conditions sociales ou bien à l'évolution actuelle dans le pays. L'hebdomadaire Respect s'est récemment penché sur les relations qu'entretient la République tchèque avec l'Allemagne, son plus important voisin occidental, pour constater que les Tchèques, à l'avenir, ne pourront plus avoir de meilleurs partenaires que ne l'est actuellement Angela Merkel. Thomas Lindner explique pourquoi.
La chancelière allemande, qui a grandi de l'autre côté du rideau de fer en tant qu'Allemande de l'Est, a parcouru l'Europe de l'Est avec un sac à dos lorsqu'elle était étudiante. Et pendant un stage, elle est tombée amoureuse de Prague. Aujourd'hui encore, elle a gardé de bons amis dans la capitale tchèque. Pour toutes ces raisons, elle comprend très bien les intérêts, les sentiments et les difficultés politiques des États post-communistes.
Concernant les relations entre les deux États, l'auteur du texte souligne, en citant l'actuel ambassadeur d'Allemagne à Prague, qu'elles n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui. Thomas Lindner en donne quelques exemples.
Il n'existe désormais pratiquement plus aucun sentiment nationaliste anti-allemand au sein de la jeune génération tchèque. La Bavière a ouvert une représentation à Prague, ce qui était inimaginable récemment, encore en raison de points de vue différents sur le passé. La coopération entre les associations civiques, les villes jumelées, les régions frontalières et les échanges d'étudiants ne cessent de fleurir. Et puis, lors de la dernière Coupe du Monde de football, beaucoup de gens dans les brasseries tchèques ont supporté la sélection allemande, ce que l'on n'aurait jamais vu il y a une dizaine ou une vingtaine d'années encore de cela.
À la lumière de tous ces constats positifs, Thomas Lindner soulève la question de savoir si la Tchéquie s'est profité de cet intermède historique favorable et des opportunités qu'offre celui-ci. Jouissant d'une importante expérience en matière de transformation politique et économique, les Tchèques pourraient, par exemple, participer à la mission consistant à édifier une Ukraine stable. De même, toujours selon l'auteur de l'article, la Tchéquie devrait prendre une certaine initiative dans la nouvelle politique d'asile envisagée par la partie allemande. Thomas Schlinder souligne alors.
En dépit de ce que pense toujours une importante partie de nos élites et de nos citoyens, nous ne sommes pas un petit pays, car à l'échelle de l'Union européenne, nous représentons un pays de moyenne taille. C'est pourquoi nous sommes appelés à assumer une partie adéquate de nos responsabilités face aux problèmes européens.
Comment faire de Prague une ville moderne, une ville du futur? C'est la question à laquelle ont tâché de répondre les experts étrangers en charge d'innovations urbaines qui étaient invités récemment dans la capitale tchèque afin de dresser une analyse détaillée. Vainqueur du premier tour du concours international Morgenstadt City Challenge, Prague deviendra prochainement la première ville dotée d'un manuel d'innovation. Une des récentes éditions du quotidien Mladá Fronta.dnes a apporté quelques précisions à ce sujet.
Un peu de New York, une odeur de Berlin et un brin de Copenhague. Avec ce manuel, c'est ainsi que Prague, telle une ville moderne, pourrait se présenter à l'avenir. À cette fin, des experts allemands sont appelés à examiner près de 80 critères relatifs à Prague, concernant les transports, l'efficience énergétique, l'administration intelligente de la ville, les infrastructures techniques, la sécurité et la résistance aux catastrophes naturelles. En octobre prochain, à l'issue de l'étude d'acquisition et de matériaux recueillis, les experts soumettront des propositions de mesures permettant de faire de Prague une ville qui fonctionnera mieux qu'à présent.
Selon le journal, la municipalité de Prague est prête à prendre en compte les résultats de cette analyse détaillée. Ceci dit, on ne saurait évaluer la perspective de la mise en pratique des propositions présentées, en raison notamment du coût élevé des innovations envisagées. Les pages culturelles des journaux tchèques consacrent une large place à l'exposition d'Oskar Kokoschka qui se tient actuellement au Palais des Foires à Prague. Tous profitent de l'occasion pour rappeler les liens qu'entretenait le grand peintre expressionniste autrichien avec la capitale tchèque. L'hebdomadaire Týden donne quelques précisions à ce sujet.
Natif de Basse-Autriche, Kokoschka pouvait tout de même se sentir proche de Prague, car c'est là-bas que son père est né et que sa sœur Bertha s'est établie après son mariage. Quant à lui, Kokoschka s'est retrouvé à Prague en même temps que d'autres artistes allemands avant la Deuxième Guerre mondiale pour fuir le nazisme, une menace qui les a finalement contraints à se sauver pour la Grande-Bretagne ou ailleurs.
Kokoschka n'a passé que 4 ans à Prague, mais, comme le remarque le magazine, il a aimé jusqu'à la fin de sa vie. Les tableaux qui sont à voir à l'exposition, qui refermera ses portes le 28 juin prochain, le traduisent d'ailleurs de façon éloquente. Ils saisissent notamment l'atmosphère de la capitale tchèque, telle que le peintre l'apercevait à l'époque. On rappellera ici que de nombreuses autres grandes personnalités viennoises possède des origines tchèques, parmi lesquelles on ne citera que les musiciens Gustav Mahler et Oskar Nedbal ou le célèbre psychanalyste Sigmund Freud.
Notre émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez ce week-end nos rubriques culturelles, littéraires, mais également musicales. Ça, ce sera pour le samedi et dimanche. Radio Prague, c'est sur le www.radio.cz/fr. On va y arriver, mais aussi sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.